Critical Secret. Critical Secret. Critical Secret. Critical
Secret. Critical Secret. Mafia de Pierre Bongiovanni. Module 15.
J'en reviens maintenant à ma conversation avec la morte de la campagne toscane. Un jour, j'ai lu l'anecdote suivante. Je crois que l'histoire se déroulait quelque part dans le sud de la France, sans doute du côté des calanques marseillaises. Un homme, un chauffeur de taxi, en balade au bord des calanques, arrête sa voiture, sort de sa voiture pour faire quelques pas, et aperçoit en contrebas une forme humaine, en équilibre précaire au bord de la falaise. Il en déduit immédiatement que la forme, qui s'avère être une femme, va se jeter dans le vide. Il s'approche lentement. Il est à une distance trop grande pour pouvoir l'attraper et suffisamment proche pour pouvoir lui parler. Il engage alors la conversation avec elle, s'approche petit à petit. Finalement, il se trouve à portée de main, à portée de corps, à portée de voix. Et il entreprend une conversation. Il va lui parler pendant 5 heures. Personne ne saura jamais ce qu'il lui a dit. Toujours est-il que 5 heures plus tard, quand il se retourne pour regagner la route, la femme le suit. Ni elle ni lui ne feront des confidences sur ce qu'il a pu dire, ce qu'elle a pu entendre et ce qui a pu faire qu'elle revienne sur le bord de la route. Cette anecdote, rapportée par la presse locale à l'époque, m'avait profondément ému parce que le fait qu'une conversation s'engage, dont on ignore tout, le fait qu'un destin bascule parce qu'une conversation a lieu, le fait que le saut dans le vide est reculé dans le temps et dans l'espace, par le simple fait de la voix sortant d'une bouche, traversant l'espace et traversant un cœur. Fait de la parole, à ce moment-là, quelque chose qui est bien plus qu'un trésor, quelque chose qui est bien plus qu'une preuve, quelque chose qui est bien plus qu'une prière, mais quelque chose qui relève du mystère. Du mystère au sens où l'on peut parler de mystère quand on parle des grottes de Lascaux, où l'on peut parler de mystère quand un vivant s'adresse à un mort. J'ai parlé à la morte pendant des heures, et je ne dirai pas évidemment ici de quoi j'ai parlé. De toute façon, même si je le souhaitais, j'en serais incapable, n'étant plus très sûr de moi aujourd'hui, quant à ce qui s'est passé effectivement ce jour-là, et quant aux images et aux paroles qui sont sorties de ma bouche. Même si, par commodité sans doute, j'affecte de penser qu'elle a tout entendu et tout transporté avec elle, je sais qu'il s'est joué ce jour-là quelque chose entre elle et moi, entre moi et le monde, quelque chose de décisif, dont les tenants et les aboutissants m'échappent complètement. Alors même qu'elle était confrontée au concret de la mort, moi, je me trouvais confronté à l'abstraction de la clandestinité. Je savais, à partir du moment où j'avais dérogé à la règle principale, ne jamais s'approcher du cadavre, ne jamais rentrer en contact avec le mort. Je savais qu'à partir de ce moment-là, j'allais vivre une triple clandestinité. J'allais devoir m'évanouir aux yeux même de mon organisation. J'allais devoir m'évanouir aux yeux même du monde. Et j'allais devoir m'évanouir à moi-même. Tout s'est donc passé à ce moment-là, comme si, par cette femme, j'accédais à quelque chose d'autre. Comme si, par ce sacrifice, j'accédais à une nouvelle forme de naissance, mais à une forme de naissance vaine, puisqu'elle me projetait dans un vide sidéral, celui de la clandestinité. Un vide sans objet, un vide sans perspective, un vide sans résonance, un vide sans écho. D'une certaine manière, je peux dire maintenant que je venais de renaître en la tuant, mais que cette renaissance me conduisait vers un néant épiphanique. Et je peux dire également que elle mourut sans façon, et que cette mort ouvrit un nouvel espace épiphanique lui aussi, mais totalement sans objet.